Par rapport à la transmission épigénétique, donc on en a beaucoup entendu parler de l'épigénétique. Donc c'est une transmission qui, c'est peut-être important de le rappeler, qui est de l'expression des gènes, mais sans que soit altérée la structure de l'ADN, sans qu'il y ait des changements des séquences nucléotidiques. Et ces changements vont être provoqués par des facteurs d'environnement. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir que cette transmission épigénétique dans des modèles animaux, elle peut se faire sur de très nombreuses générations. En fonction des modèles, ça peut aller de 7 générations jusqu'à même 14 générations. Et ça va passer par la lignée mâle. Voilà. Donc, même si, bien évidemment, entre les souris et les hommes, il y a des ponts et des liens à ne pas forcément faire. Ça pose quand même des questions sur des processus qui impliquent de l'homme et également donc sur une transmission transgénérationnelle qui peut être sur beaucoup de générations.
Oui, je voulais,
Voilà.
Sylvie, je voulais te demander, quand même te poser une question. Qu'est-ce qui est modifié alors? Quand tu me dis c'est modifié, mais qu'est-ce qui est modifié?
C'est les gènes qui sont, l'expression des gènes va être modifiée. Alors là, dans quelque chose qui est très court, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ça sera dans la communication.
Ouais.
C'est-à-dire que tu vas pas avoir de mutation, mais tu vas avoir ce qu'on a, c'est de la chromatine, c'est des petites boules de chromatine qui vont se mettre sur les gènes et qui vont faire que, du coup, certains gènes vont ne pas pouvoir s'exprimer parce qu'ils sont masqués et d'autres vont au contraire pouvoir s'exprimer avec une
Alors, je veux
surexpression.
dire, c'est des
Et il s'avère
petites.
que cette chromatine, on pensait que ce qui se transmettait, c'était que la structure de l'ADN avec ATGC, etc., adénosine, thymine, guanine et compagnie. Et en réalité, ce qui est transmis, c'est également ces petites boules, ce qui fait que tu transmets un fonctionnement et non pas uniquement des histoires de mutation.
Oui,
Et
c'est
donc,
ça. On pensait d'ailleurs que peut-être ce qui était.
des dizaines de générations, donc c'est énorme.
Oui,
Et c'est
mais ce qui.
surtout dans les. Alors peut-être que ce que j'ai
Voilà,
pas dit,
ça.
c'est que ça touche de l'expression des gènes, peut-être qu'on peut le refaire, hein, c'est que c'est essentiellement des facteurs d'environnement qui sont des facteurs de stress. Ça a été beaucoup étudié dans les modèles animaux du côté des facteurs de stress, un peu comme ça va entraîner des mécanismes d'adaptation, mais avec du coup des modifications d'expression des gènes. Et jusqu'à présent, on pensait que si tu as une modification juste de l'expression, ben, ça va pas forcément se transmettre. C'est vraiment les mutations, l'ADN qui se transmet. Or non, tu as tout le programme qui se transmet, y compris s'il y a eu des gènes qui ont été masqués, ben, ça continue à se transmettre.
Mais historiquement, ces petites boules de chromatine, on pensait que c'était neutre, que c'était des choses qui accompagnaient, mais qui ne jouaient pas un rôle important.
Non, oui et non, oui et non. C'est qu'on savait pas exactement. On savait qu'il y avait, par exemple, dans des modèles animaux là, de rats où il y avait un événement stressant où la rate gestante, eh ben, elle allait recevoir un choc électrique. On s'apercevait que tous les petits, les F1, donc la première génération, ils avaient des réponses anormalement augmentées au stress. Et c'était surtout observatoire, c'est-à-dire c'était de l'observation. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'après, même les F2, les F3, ils continuaient, alors que pourtant, ils n'avaient pas du tout subi, la mère gestante n'avait pas subi de choc électrique. On s'est aperçu que c'était surtout les mâles, finalement, les F1 mâles qui transmettaient à leur propre progéniture. Donc au départ, c'est assez récemment qu'on a su que ça passait par des histoires de chromatine. On ne savait pas exactement qu'est-ce qui était modifié, puisqu'on savait qu'il n'y avait pas de mutation et on ne comprenait pas exactement ce qui se passait. Mais on savait qu'un facteur d'environnement avait modifié l'expression des gènes et que ça ne passait pas par eux. Et qu'on savait aussi que plus cette modification, plus le facteur d'environnement était intervenu tôt dans le développement, et plus la plasticité, sur plusieurs générations était difficile. Donc on avait quelque chose sur le fait qu'il y avait une sorte d'imprégnation très très précoce. Donc c'était surtout d'observation dans des modèles animaux. C'est assez récemment qu'on a su exactement les mécanismes par lesquels ça passait, quoi. Et actuellement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur les modèles animaux, il y a des recherches sur l'humain qui vont donner, mais je pense qu'il n'en parlera pas Roberto, mais en tout cas, moi, je suis la discutante, donc j'amènerai quand même ça, c'est qu'il y a quand même des études sur, en particulier, tout ce qui est diabète, tout ce qui est alimentation, etc., on sait que ça passe aussi par des mécanismes d'épigénétique chez l'homme, quoi. Voilà, en tout cas, les modèles animaux, comme tout modèle, ça permet de mieux étudier des processus, hein, qui sont des processus, on va dire, biologiques. Et il y avait bien sûr l'hypothèse que ces processus biologiques ne seraient pas uniquement dans des modèles animaux que tu vas les retrouver chez l'homme.